Oh, ça roule ce midi à l'émission On en jase. Précisément, midi 34 minutes, 418-971-1021 pour nous joindre. Vous avez été plusieurs à réagir sur notre entrevue avec Bernard Drainville. BLVD.fm, les meilleurs moments se retrouvent là. Notamment notre entrevue avec Bernard Drainville. Et la prochaine qui va suivre avec Pascal Paradis, député de Jean Talon du Parti québécois. L'application Boulevard, meilleure façon de nous écouter, disponible sur les App Store, Google Play Store. Twitch.tv/BLVDFM. Vous êtes encore plusieurs à nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Et également, abonnez-vous à notre page YouTube parce qu'on met des bons moments, notamment cette entrevue qu'on vient d'avoir avec Bernard Drainville. Il y a les podcasts qui se retrouvent là, podcasts des grands événements avec Denis Gravel. Donc, surveillez, abonnez-vous à notre page YouTube. Je viens d'en parler, on l'a au bout du fil. Le député de Jean Talon pour le Parti québécois, Pascal Paradis, est avec nous. Monsieur Paradis, merci pour votre présence aujourd'hui.
Bien, toujours un plaisir d'être avec vous. J'espère que tout le monde va bien.
Oui. Monsieur Paradis, est-ce que c'est prématuré de lancer déjà la campagne pour la souveraineté alors que le PQ n'est pas encore élu?
Bien, nous, évidemment, il n'y a personne qui tient rien pour acquis. On l'a mentionné hier à plusieurs reprises. Il va y avoir des élections, etc. Mais ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham jeudi dernier, avec un discours très choquant de Mark Carney, qui place le Québec, en fait, qui revise l'histoire du Québec en disant que c'est grâce à la conquête, grâce à la domination du fédéral, que finalement tout ça c'était de la collaboration puis qu'on a pu prospérer. Clairement, c'est le premier ministre du Canada, c'est pas n'importe qui est en train de se placer dans une perspective historique en vue des discussions qu'on va avoir au Québec. Donc, Paul a indiqué qu'il allait répondre à ce discours-là dans son discours de dimanche, parce qu'il y en a fait deux, il y en a eu un vendredi lors de notre congrès, parce que nous on était réunis en congrès, là, aux auditeurs. On avait 1500 personnes qui étaient réunies pendant la fin de semaine à Saint-Hyacinthe pour discuter notamment des orientations du parti. Là, puis ça a été 3 jours de discussion. C'est le fruit d'un travail de 2 ans, donc il y avait tout ça. Mais dans la partie de son discours, donc dimanche, Paul a dit, il faut répondre à ça, parce que tout ça, c'est dans une perspective, ben oui, de la vision de Mark Carney, de ce que c'est le Canada. Et nous, ben au nom des Québécois qui ont été choqués d'entendre dire que la conquête, finalement, c'était de la belle collaboration, ben Paul a replacé les choses dans un contexte de vérité historique puis d'espoir pour l'avenir du Québec.
Mais là, êtes-vous devin au PQ? Parce que je regarde la thématique du congrès, ça s'appelait « Écrire l'histoire ». Mark Carney réécrit l'histoire.
Je suis content que vous mentionniez ça parce que nous-mêmes, on était stupéfaits.
C'était-tu organisé avec M. Carney, dans le fond? C'est un complot.
J'aimerais vous dire que c'est organisé, mais non, en fait, j'aimerais pas vous dire que c'est organisé, mais c'est vrai que c'est fou parce que oui, nous, on avait dit que les Québécois, en réalité, sont en train d'écrire l'histoire, puis c'est à eux d'écrire l'histoire. C'était ça le thème de notre congrès. Et Mark Carney, vous l'avez très bien dit, vient réécrire l'histoire nationale. C'est absolument profondément choquant ce qu'il a dit. Sur les plaines d'Abraham, imaginez. Sur le lieu de la défaite des Français aux mains des Britanniques en 1759, il vient dire que ça c'était de la collaboration puis que c'était pas de la domination. Donc c'est vrai, vous avez raison de le mentionner, que c'est une des raisons pour laquelle Paul a dit dimanche nous allons exprimer nous notre version, revenir sur la vérité historique parce que c'est pas anodin. Savoir d'où on vient. Et quel est le contexte historique dans lequel on se place? Parce que les institutions dans lesquelles on fonctionne sont issues de tout ce processus historique. Ben, c'est important pour déterminer où on veut aller après. Il faut s'en souvenir. Notre devise, c'est « je me souviens ». Alors, c'est important.
On vient d'avoir une entrevue avec Bernard Drainville qui nous expliquait qu'il n'est plus souverainiste et qu'il ne veut pas de référendum en raison de l'incertitude économique qui plane et de Donald Trump. En quoi, vous, au PQ, vous considérez qu'un Québec souverain serait mieux placé économiquement?
Parce qu'actuellement, en fait, le meilleur pour répondre à cette question-là, savez-vous, c'est qui?
C'est qui?
C'est Mark Carney, le premier ministre du Canada, qui est allé à Davos faire un discours dont on a bien noté les lignes principales. Il a dit « Nous allons défendre le principe de souveraineté, Là, il dit pour le Canada, mais moi, je vous dis, ce qui est bon pour le Canada, c'est bon pour le Québec. Et il dit, quand en affaires internationales, on n'est pas à la table, on est au menu. C'est exactement ce qu'on dit depuis longtemps, nous, au Parti québécois. Donc, actuellement, nous ne sommes pas à la table des discussions qui nous concernent. Nous sommes donc au menu. Et comme Paul l'a dit dans son discours, ça, de vendredi, ben maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est mangé bien cuit ou bouilli? C'est notamment le cas au Canada, où on ne décide pas des orientations de la politique étrangère du Canada. On n'est pas là quand on signe des traités internationaux. On a eu des exemples récemment, là. Par exemple, on parle de la protection du français puis de la découvrabilité. Donc, quelles sont les mesures internationales qui ont un effet sur notre industrie culturelle au Québec, par exemple? Ben, il y avait des négociations il n'y a pas longtemps à l'UNESCO. Le Canada a voté contre la proposition du Québec. Le Canada a voté contre la proposition du Québec. Et c'est le Canada qui vote pour nous. Mark Carney vient d'aller effectuer une mission en Chine où il a exprimé un changement radical de la politique canadienne qui était jusqu'au 6 janvier dernier la plus dure envers la Chine, quasiment à l'échelle planétaire. On boudait les Chinois. Le rapport Hogg, qui a été produit par une commission d'enquête au Canada, dit que c'est la principale menace pour la sécurité nationale actuellement. Espionnage industriel chinois, ingérence dans nos élections, postes de police, ici même au Québec, là, des postes de police entre guillemets opérés par les Chinois, etc. Et là, du jour au lendemain, il va se précipiter dans les bras de Xi Jinping, mettant ainsi à danger nos intérêts économiques dans les Amériques.
Mais
parce que notre principal partenaire
Paradis.
Commercial, c'est les États-Unis. Donc là, il y a plein d'entreprises actuellement, des gens qui nous écoutent, qui disent « Hey, ça peut avoir un impact sur ma capacité de brasser des affaires ici dans les Amériques. » Donc, quand on décide pas, quand on ne participe pas, ben c'est pas dans l'intérêt du Québec, puis on est victime de décisions qui nous concernent.
Mais malgré tous les exemples que vous venez de donner, qui sont pertinents, Mark Carney demeure quand même populaire au Québec. J'ai vu plein de gens saluer son discours à Davos, dont des souverainistes d'ailleurs. Il y a quand même pas mal de monde qui trouvait que c'était un bon discours. En parallèle de ça, les sondages d'appui à la souveraineté ne bougent pas beaucoup. Pensez-vous que c'est quand que ça va se mettre à bouger? Là? Parce que malgré l'insensibilité de M. Carney face au Québec, l'impression que les intérêts du Québec ont été mis un peu sur la tablette depuis le retour de Trump, ça bouge pas. Qu'est-ce que le PQ va faire pour faire bouger l'aiguille?
Ben, nous, on est déjà au travail là-dessus. Aujourd'hui, je vous explique une partie des raisons qui, pour nous, font en sorte que plus que jamais, il faut l'indépendance du Québec. Plus que jamais, il faut un changement de gouvernement avec un gouvernement qui va avoir de la rigueur, qui va arriver préparé. Je vous le réitère, là, en fin de semaine, là, j'avais dit tout à l'heure les derniers chiffres, il y avait 276 résolutions qui ont été présentées, des propositions, 150 qui ont été adoptées dans tous les domaines, éducation, santé, économie, énergie, innovation, affaires sociales, relations internationales. Nous, on arrive, on prépare avec rigueur. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Là, j'ai un document d'une 60aine de pages devant moi qui va servir à préparer notre plateforme électorale. Donc, on a besoin de ça. Et actuellement, on a un gouvernement fédéraliste au Québec qui est au pouvoir. On a bien sûr tout le régime fédéral qui entretient la campagne de peur en disant « Nous, au Québec, on n'est pas capable. » C'est ce que Paul a dit hier dans son discours aussi, que c'est ça aussi la nature, les racines colonialiste du régime canadien, c'est ça, c'est un régime de conquête, c'est un régime de domination, et nous, c'est le discours de la vérité et de l'espoir pour dire au Québec, nous sommes capables, dans plusieurs domaines, nous sommes parmi les meilleurs, comme pays indépendant, nous nous placerions dans plusieurs secteurs parmi les meilleurs, serions une puissance moyenne, comme le Canada l'est actuellement, dans tous les indicateurs, population, taille du territoire, force de l'économie, on serait un pays de taille moyenne. Et Mark Carney lui-même a dit, c'est l'époque des puissances moyennes où on peut s'unir, travailler ensemble pour faire face à la situation internationale. On est d'accord avec lui. Et d'ailleurs, regardez à quel point tous les pays du monde actuellement sont montés au créneau à la défense du principe de souveraineté. Tout le monde dit, c'est plus important que jamais de défendre notre souveraineté. Il y a 200 pays à peu près sur la planète. Il n'y en a aucun qui est en train de dire dans la situation actuelle, vite, il faut renoncer à notre souveraineté. Nous, on dit qu'il faut gagner notre souveraineté pour défendre nos intérêts.
Ben justement, votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, l'a dit en fin de semaine, c'est le début de la campagne référendaire qui a été déclenchée par Mark Carney, pour reprendre ses paroles. Est-ce que c'est un peu ça l'optique du PQ au cours des prochains mois en vue d'élections provinciales, étant donné qu'on a deux partis qui se trouvent des nouveaux chefs? On va surtout se concentrer sur attaquer les politiques de Mark Carney que le Canada prend au final?
Il y a deux axes. Le premier axe, c'est celui dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir le même travail très rigoureux sur toutes les politiques publiques qui concernent les Québécoises et les Québécois, coût de la vie, questions économiques, éducation, santé. Puis je pense que vous nous avez vu travailler à l'Assemblée nationale, malgré le fait qu'on ait un budget qui n'a rien à voir avec ceux des autres partis, des ressources, en nombre de personnes, etc. On arrive extrêmement bien préparé. On est là pour rendre le gouvernement imputable et proposer des alternatives. Et là, on arrive fort d'un extraordinaire document d'orientation fourni par les militants qui ont travaillé ça depuis 2 ans dans toutes les circonscriptions, dans toutes les régions. Alors nous, on arrive extrêmement préparé et rigoureux. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe qui est intimement lié, parce que tout ce travail-là et tout ce que fait le gouvernement du Québec, il y a toujours un problème, c'est qu'on a une main attachée dans le dos. On envoie 50 % de nos impôts, à peu près, là, à Ottawa, où on prend des décisions qui sont souvent pas dans notre intérêt et on bâtit, nous, la confiance en nous-mêmes au Québec qu'on est capable. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les différents chapitres du Livre bleu sur l'indépendance du Québec qu'on lance à intervalles réguliers. En fin de semaine, on en a lancé un nouveau sur ce que serait la citoyenneté québécoise, sur la fameuse question du passeport. Et on arrive avec des chiffres. Ça aussi, c'est un travail. Ça fait des années qu'on arrive. On arrive avec c'est étudié avec des chiffres, des experts qui appuient nos positions pour démontrer que le Québec a tout en main pour se distinguer à l'échelle internationale et combattre, comme vous l'avez mentionné, cette campagne de peur qui a déjà commencé là, avec des gens qui écrivent que pauvre petit Québec, dans le contexte actuel, on serait pas capable de s'en tirer. Nous, on dit au contraire, on serait plus prospère et on serait mieux à même de défendre nos propres intérêts comme 200 pays dans le monde.
Pascal Paradis, merci beaucoup pour votre présence à l'émission On en jase ce midi et au plaisir de se reparler prochainement. Je crois que l'actualité politique va nous amener à se parler plus régulièrement.
Ça va me faire plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Au revoir. Salut, ciao. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Antonine, t'as pensé quoi du congrès du PQ cette fin de semaine? Mario Dumont, tantôt, en parlait comme une réussite. Il y avait 600 personnes, l'ovation, on a craqué les troupes. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait faire.
Aucune nouvelle négative qui est ressortie d'un congrès. J'en ai organisé des coms autour des conseils nationaux puis des congrès. Et c'était toujours très, très périlleux. Pourquoi c'est périlleux? Parce que les communications sont moins contrôlées aussi, parce que tu as des militants qui sont présents, qui des fois parlent avec des journalistes, puis des fois ils sont pas d'accord, puis il y a des débats, puis c'est super le fun, mais des fois ça fait des nouvelles un peu plus négatives. Ça fait quelques conseils nationaux et congrès là, des instances partisanes du PQ qui se passent super bien. Puis c'est ça un peu l'aura qui tourne autour du PQ en ce moment. Hein. C'est vraiment d'avoir le vent dans les voiles. Par contre, la petite tâche au tableau, là, c'est que c'est vrai que Mark Carney a fait une passe à la palette au PQ. En fait.
Clairement.
Okay? Pour mobiliser les troupes, galvaniser les troupes, il n'y a rien de mieux que ça.
Je riais de moi-même la semaine dernière parce qu'avec le discours de Mark Carney
à Davos,
sorti mon drapeau du Canada. Puis après, jeudi, c'était mon drapeau du Québec qui m'abriait la nuit.
T'es tout mélangé.
Mais je suis autonomiste.
T'es autonomiste, bon.
Comme j'ai dit, c'est plate en crime, mais t'es autonomiste.
C'est beige un petit peu, mais c'est pas beige. Grave. Mais Mark Carney a fait une passe à palette à Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, j'ai pas capoté sur le champ lexical, donc le choix des mots de Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, victime, colonialisme, esclavage, c'est moins ça qui vient me chercher. Peut-être que ça va chercher une base péquiste, c'est bien correct. Moi, ça m'interpelle moins. Puis, à quelques mois des élections, t'sais, il faut qu'ils soient cohérents, puis c'est correct. Ils sont fidèles à eux-mêmes. PSPP a démontré là, que c'était pas quelqu'un qui changeait d'idée comme dans la direction du vent, puis c'est parfait. Mais en même temps, il faut faire attention quand même d'être rassembleur. Puis je leur lève un drapeau jaune, en fait, parce que c'est vrai que Mark Carney est populaire au Québec. Puis ça a l'air bizarre, parce que tu as d'un côté des gens qui votent beaucoup pour les libéraux fédéraux, mais le PQ est quand même premier des sondages. C'est comme si on veut le nationalisme, on veut aussi la fraîcheur là, qui tourne autour de PSPP, mais en même temps, ça nous sécurise peut-être d'avoir un Mark Carney au fédéral. Donc, puis les sondages de la souveraineté qui ne bougent pas, même s'il en parle, il en parle, il en parle. Puis honnêtement, j'ai écouté l'entrevue avec M. Paradis. Il prêche une convertie, je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de secret là-dedans. Mais je me demande, les gens à la maison, puis ils peuvent envoyer des commentaires d'ailleurs par texto, est-ce que ça les touche? Tu sais, ça me semble
un petit peu
théorique.
Pour de vrai, 418-971-1021, riaché, mais à présent, là, hey, Québec serait même trop vulnérable dans le contexte d'un nouvel ordre mondial. Ouais, PQ prend juste ce que ça fait pour eux, les commentaires de Mark Carney. Donc, tu sais, je ne sens pas qu'il y a de fibre souverainiste, parce que je ne veux pas dire nationaliste, souverainiste chez nos auditeurs.
Non, parce que le nationalisme, on le sent, mais la souveraineté, c'est comme un pas supplémentaire. Et je pense que le plus grand adversaire du PQ pour l'instant, c'est l'insécurité.
Mm-hmm. Puis il y a une chose qui me dérange du côté de Paul-Saint-Pierre-Plamondon présentement, c'est que Mark Carney lui a fait une passe sur la palette, il devait réagir. Mais le problème, c'est que quand Mark Carney fait pas de passe sur la palette, ben, il réagit quand même.
Il est très réactif.
Non, mais c'est ça. Encore une fois, je trouve que c'est ça le problème. On en parlait sur ses réseaux sociaux dès qu'il y avait une chronique sur lui. Puis là, dès que Mark Carney fait quoi, c'est tout le temps mauvais. Dès que Mark Carney va faire un discours à l'étranger, dès qu'il va faire un accord économique, que ce soit une passe sur la palette ou pas, on aurait dit que peu importe ce que Mark Carney fait, Paul-Saint-Pierre Plamondon réagit puis dit « c'est pas bien ».
On a l'impression que la chemise est tout le temps en train d'être déchirée.
Exact.
Mais c'est vrai que c'est un bon point parce que si tu veux que les gens écoutent, tu peux pas toujours être en train de crier au loup.
Ouais,
il y a peut-être un dosage aussi à y avoir.
Et ça rejoint ce que Stéphane dit. Jusqu'à maintenant, je sens qu'il veut juste gouverner, travailler seulement en opposition avec le gouvernement fédéral. Et ça vient tanner beaucoup de gens. Justement, dans le contexte où la guerre est bien plus avec les États-Unis qu'avec le Canada.
Ben, c'était un peu le message de M. Neuville un peu plus tôt. Mais en même temps, c'est quoi l'avantage pour le PQ de construire des ponts avec le fédéral? C'est sûr que le jeu du PQ, c'est de créer des conflits parce qu'on veut, mener le projet jusqu'au bout puis que c'est pas à coup de on s'entend bien que ça...
Ouais.
Ben, donc, on comprend la stratégie du PQ, c'est juste qu'à un moment donné, ça va finir par les rattraper. Puis, une question qui vient de me venir puis qu'on aurait dû poser à Pascal Paradis, je vous la pose à vous. On va avoir deux nouveaux adversaires devant soi là, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'on va avoir un nouveau chef du Parti libéral, Charles Milliard, à moins d'une surprise vraiment complètement folle. Et d'un autre côté, soit Mme Fréchette ou M. Drainville. Donc, on va avoir un changement de dynamique. PSPP était vu comme un peu le jeune dynamique.
C'était le vent de changement.
C'était le vent de changement. Donc là, avec des adversaires nouveaux, c'est sûr qu'avec un François Legault et ben, pendant longtemps avec un Marc Tanguay, puis après ça, un Pablo Rodriguez qui était dans le chenoute, le défi va être peut-être encore plus grand là, pour PSPP.
En effet. Antonine Iacarini, merci beaucoup d'avoir étiré ta présence dans un caucus allongé. Entrevue de Bernard Drainville, entrevue de Pascal Paradis. C'est toujours un bonheur de faire de la radio avec toi, Anto.
Merci. À demain.
Ça fait plaisir. On se parle demain avec un immense plaisir, comme à l'habitude, le caucus avec Antonine Iacarini du lundi au jeudi à compter de midi.
On en jase. Jase. À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase de ton lundi 26 janvier. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Pour réagir, 418-971-1021. Parce qu'on part cette émission sur les chapeaux de roue. Il a 10 minutes à nous accorder. Il est candidat à la chefferie pour la coalition Avenir Québec. Il est député de Lévis. Bernard Drainville est au bout du fil. Monsieur Drainville, comment allez-vous?
Très bien, Jean-François. Comment allez-vous?
Hey, bonjour, Bernard. Ça va bien?
Antonine.
Bonjour. Bernard, là, je vais vous vouvoyer. Là, parce
oui,
que,
faut
évidemment,
se vouvoyer. Oui,
bon, puis je déclare mon conflit là, parce qu'on se connaît un peu. Mais je sais, Bernard, que vous avez parfois un peu de difficulté à vouvoyer les gens. Hier soir, tout le monde en parle, c'était pas toujours évident. Fait que je veux juste vous dire qu'ici, si vous voulez, vous pouvez nous tutoyer.
Oui, c'est gentil, Anthony, mais je dois vraiment développer ma discipline en la matière. Alors, je vais continuer à essayer de vous voir.
Parfait.
Mais ça va être difficile avec vous. Ça se peut qu'il y ait un petit tu à un moment donné qui se glisse dans la discussion. Mais j'essaie de me formater vouvoiement. Là.
Parfait. Bon, on va vous aider, puis on va continuer de vous voyez aussi.
On vous en tiendra pas rigueur, M. Drainville, ne vous inquiétez pas. J'aimerais amorcer avec le discours de Mark Carney jeudi dernier, parce que ça se déroulait ici, dans la ville de Québec, discours où on a révisé l'histoire sur les plaines d'Abraham. Est-ce que ça fait ressortir en vous votre côté souverainiste?
Non.
Et pourquoi? Parce que même moi qui n'ai pas un souverainiste, j'avais mon drapeau du Québec, là.
Ouais, bon, ben écoutez, c'est tant mieux pour vous, ou je sais pas, mais je, non. Honnêtement, là, on vit énormément d'incertitudes présentement. Là, on traverse une époque, franchement, on pensait jamais vivre ça, là. Les institutions sur lesquelles se sont construites l'ordre international d'après Deuxième Guerre mondiale est tout en train d'être sapé. Et des choses qu'on prenait pour acquises, comme le respect des frontières, le respect de l'indépendance des pays, la règle de droit, tout ça est remis en question. Alors, on vit beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité. Et je pense que le projet de tenir un référendum dans ce contexte-là est une très mauvaise idée. C'est déjà une mauvaise idée parce qu'il n'y a pas suffisamment de Québécois qui l'appuient, puis un référendum perdant serait encore une fois perdant pour le Québec, pas juste pour les souverainistes, mais pour tout le Québec. Mais dans le contexte actuel, c'est encore pire. Alors moi, je veux travailler pour sécuriser notre économie. Je pense que ça va être un des grands mandats du prochain premier ministre, c'est d'assurer la sécurité économique du Québec et des Québécois. Et puis, il y aura évidemment beaucoup d'autres enjeux qui tournent autour de ça, là. Mais la renégociation du traité de libre-échange avec les Américains, là, c'est un passage extrêmement critique pour notre prospérité future. Puis moi, je pense qu'il faut se concentrer là-dessus, puis travailler avec les autres partenaires canadiens pour s'unir face à Trump. Parce que si on commence à se diviser à l'intérieur du pays, puis entre Québécois avec un référendum, honnêtement, Trump va vouloir profiter de cette faiblesse. Regardez comment ce qui marche, là. Dès qu'il voit une faiblesse, il veut en profiter, là. Il ne faut pas lui donner cette poignée-là. Là.
Mais M. Drainville, vous avez raison, effectivement, là, sur les États-Unis. Mais en même temps, la question du discours de M. Carney, c'est pas une affaire de souveraineté ou de référendum seulement. C'est, oui, on veut regarder vers l'avenir puis travailler de la manière la plus efficace. Mais votre collègue Jean-François Roberge a réagi. Et je trouve qu'il est allé un petit peu plus loin que le minimum syndical. Là. Il a dit que M. Carney avait livré un discours réécrivant l'histoire, présentant la conquête comme le début d'un partenariat, l'adaptation plutôt que l'assimilation, tout ça. Et invitait M. Carney à relire son discours à Davos parce qu'il disait, il rappelait avec raison que le discours de Vaclav Havel nous invitait à cesser de vivre dans le mensonge et rappelait que la puissance commence par l'honnêteté. Vous n'êtes pas un peu d'accord avec votre collègue M. Roberge?
Écoutez, Jean-François est un collègue que j'estime énormément. C'est un nationaliste comme moi. Et puis, je respecte évidemment son propos, sa position. Mais moi, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Là. C'est justement pour nous sortir de ça. Parce que vous avez vu là, ce que fait Saint-Pierre Plamondon. Il a décidé que le discours de Carney, c'était le lancement de la campagne référendaire. Alors, moi, là, je m'inscrirai pas dans le lancement d'une campagne référendaire déclarée par le Parti québécois.
Je comprends très bien. Monsieur Drainville, dossier régional, le troisième lien, est-ce qu'on ramène ça à l'Est comme plusieurs élus veulent, et notamment également la présidente directrice générale de la Chambre de commerce et de Lévis, Marie-Josée Morancy?
Ben écoutez, le troisième lien, moi, ma position là-dessus, d'abord, c'est que ça en prend un. Il faut le faire. On va pas reculer là-dessus. On en a besoin. Pour notre sécurité économique, d'ailleurs, il y a un lien. Maintenant, un projet parfait, ça n'existe pas. Un projet sans inconvénients, ça n'existe pas. C'est pas pour rien que ça fait si longtemps qu'on en parle du troisième lien, puis qu'il est toujours pas fait. C'est qu'il y a toujours des obstacles. Ça peut être des obstacles physiques, des obstacles financiers, des obstacles politiques, des obstacles d'opinion publique. Là, on a déposé un projet et il va de l'avant. Alors, est-ce qu'il fait l'unanimité? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui préféraient un autre tracé? Sans doute. Mme Guilbeault, lorsqu'elle a annoncé la décision du tracé central, a bien précisé que l'option de l'Est avait été analysée et que l'une des raisons pour lesquelles cette option n'avait pas été retenue, c'était le coût. Un coût plus élevé. C'est normal parce qu'il faudrait le pont à l'Est faudrait le faire 20 mètres plus haut pour permettre le passage des bateaux de croisière. Alors, qui dit plus haut dit nécessairement plus de coûts. Alors, je pense qu'on a un projet actuellement sur la table. On va de l'avant. Il va y avoir un appel d'intérêt international. Et voilà.
On garde le cap.
On garde le cap.
D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que si la CAQ changeait d'idée, Là, hier, vous parliez notamment, tout le monde en parle, d'essayer de rebâtir le lien de confiance. Donc, pour vous, là, la course à la chefferie, ça ne devrait pas être l'occasion encore de remettre en question le projet actuel.
C'est très bien résumé, Mme Iaccarini, Mme Antonine. Et puis, ben, c'est ça. C'est à un moment donné...
Mais ça se peut que votre adversaire le fasse. Vous ne pensez pas que c'est une bonne idée?
Ah, c'est possible. C'est possible. Et puis, à ce moment-là, les gens décideront. Mais je pense qu'il faut aller au bout du processus qu'on a mis en branle, avec le tracé qui va se préciser quand Jonathan Julien va confirmer le tracé et le budget cible. Et donc, il faut avancer avec le projet actuel.
Et puis, votre adversaire, bon, je veux parler un peu des différences entre les deux candidats déclarés. On ne sait pas s'il va en avoir d'autres, quelqu'un qui tombe du ciel, un candidat externe, mais pour l'instant, c'est un duel. Vous connaissez bien Mme Fréchette, vous la fréquentez comme collègue depuis plusieurs années. Puis, il y a pas mal d'observateurs qui disent que c'est un peu l'affrontement entre l'aile rouge et l'aile bleue. En quoi, j'essaie vraiment de comprendre en quoi Mme Fréchette serait davantage de l'aile rouge. Est-ce qu'on a des exemples concrets de prise de position ou de dossiers sur lesquels, par exemple, puis je sais qu'on ne peut pas parler des conversations du Conseil des ministres, mais sur lesquels Mme Fréchette était peut-être un peu moins identitaire ou nationaliste?
Moi, honnêtement, je n'adhère pas à cette analyse. Je la laisse aux analystes.
Donc, c'est quoi la différence entre vous et Mme Fréchette, alors?
Ben, écoutez, le parcours, en tout cas, est très certainement différent. L'emphase que l'on met sur certains aspects plutôt que d'autres. Moi, j'ai décidé de me lancer parce que, justement, je pense que l'expérience que j'ai d'avoir mené des batailles difficiles et d'être passé au travers, d'être resté solide dans ces batailles-là, j'ose espérer que ça va donner confiance aux membres de voter pour moi, de se dire ben ce gars-là il est testé, on le sait qu'il est capable de passer au travers de la tempête et dans le contexte actuel de grande instabilité, on a besoin de son expérience, on a besoin de sa solidité qu'il a montré par le passé dans d'autres dossiers. Alors, c'est factuel, en tout cas. Après ça, on verra ce que les gens décideront. Mais je regarde le parcours et puis je pense que... Enfin, je soumets aux membres que je pourrais être cette présence rassurante qui va inspirer confiance aux Québécois.
En terminant, M. Drainville, concrètement, comment allez-vous vous distancer du bilan de François Legault, sachant que la CAQ était à 11% dans les derniers sondages?
Bien, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Tout ce qui a été fait, par exemple, pour remettre de l'argent dans le portefeuille, là, les baisses d'impôts, l'augmentation des allocations pour les familles, la taxe scolaire qui a été uniformisée, les tarifs en garderie qui ont été un tarif unique qui a été mis en place, deux heures gratuites au stationnement, la baisse de le crédit d'impôt de 2 000 $ pour les aînés de 70 ans et plus qui sont à revenus modestes et moyens. Tout ça, ça a remis de l'argent dans le portefeuille. Donc, il faut reconnaître ça. Ça, c'est positif là, dans une époque où l'inflation nous fait mal. Alors, il y a des choses qu'on va devoir, je pense, assumer avec fierté. Et il y a d'autres enjeux sur lesquels il y a des changements qui devront être faits.
Lesquels?
Justement, ben, j'aurai l'occasion, si vous me permettez, de revenir
bon, au moins un avec nous ce midi.
Non, c'est gentil, Jean-François, mais on va avoir beaucoup, beaucoup d'occasions. je viens d'arriver dans la course, puis je veux pas commencer à distribuer les engagements et les promesses comme si c'était des petits chaussons, là. Ça fait pas sérieux, ça fait pas rigoureux. Quand je vais prendre un engagement, il va être documenté. je vais être certain de pouvoir le respecter, puis je viendrai vous en parler à ce moment-là.
Excellent, M. Drainville. Ça va nous faire un immense plaisir de vous recevoir en studio la prochaine fois lorsque vous serez de passage à Québec.
Ah, j'aimerais ça, j'aimerais ça. J'aime beaucoup mieux faire ce genre d'entrevue en présence, mais
ben oui.
Comme j'étais à Tout le monde en parle hier, qu'est-ce que vous voulez, ça se fait à Montréal, fait que je fais ma tournée d'entrevue depuis Montréal, mais un jour prochain, j'espère, on va se voir entre quatre yeux ou entre six ou en
ben là, bien sûr.
Anto et Madame Anto et Monsieur Mathias seront avec vous sans doute à ce moment-là.
En attendant, ben, on se contente de votre fils deux fois par semaine à notre émission par Zoom.
Ben c'est pas si mal, non?
Fait un excellent travail, pour le féliciter.
Bon, la génétique est bonne, hein, Jean-François? OK, c'est bon.
Monsieur Drainville, merci beaucoup pour votre temps accordé aujourd'hui à l'émission d'Angers.
Salut, à la prochaine.
Salut, merci, à la prochaine. C'était Bernard Drainville, candidat à la chefferie pour la coalition Avenir Québec et également député de Lévis. Chouette tantôt qu'il retrouve un peu plus de mordant. Là. Je veux une course, moi.
Ben,
là, il
moi, je
est flou,
quand...
mou, là, je trouve.
Mais je trouve que sur le ton et la forme, on a retrouvé un peu de mordant. Parce que,
t'as raison.
Tout respect pour M. Drainville, j'ai entendu beaucoup d'entrevues cette année où il y avait presque autant de soupirs puis de... un petit peu de critique des questions aussi
dans
ces entrevues. Puis là, on le sent quand même d'aplomb. Maintenant, sur la clarté, sur les positions... C'est un départ, là, parce que j'écoutais aussi les entrevues de Christine Fréchette.
Oui, oui.
Et il n'y a rien de clair non plus, là.
Non,
c'est
non,
pour
non.
ça que je demande, c'est quoi la différence entre vous deux, là?
Ben
on,
oui.
On essaie juste de comprendre.
On ne sait pas, là, vraiment, là. Puis, non, en effet, c'est sûr que j'aimerais le voir porter un petit peu plus, puis peut-être que ça va venir en cours de course, mais tout le mandat identitaire.
Oui. Exact.
Je croyais qu'elle allait le mentionner dans les bons coups.
Puis aussi avec le fait que Simon Jolet-Barrette n'y aille pas.
Oui.
L'aile identitaire...
Est libre.
Est libre. Donc, surveille Bernard Drainville en se disant est-ce que ça va être notre poulain, entre guillemets. Donc oui, mais je pense qu'il va l'occuper, ce terrain-là. C'est juste qu'il ne veut pas faire la nouvelle aujourd'hui avec ça. Il voulait se brander en bon français. Donc, comme le gars région... proche des gens, des vrais gens, parce qu'il y a des faux gens aussi.
Le vrai monde.
Le vrai monde. Et aussi comme certains éléments de d'où ça vient, son engagement et ses valeurs. T'sais, hier, à Tout le monde en parle, il nous parlait qu'il a grandi sur une ferme, etc. Donc, il veut être là-dedans. Il ne veut pas être dans les prises de position tranchées, on dirait, pour l'instant.
Il veut devenir le candidat des régions, ce que Christine Fréchette va peut-être avoir un peu de difficulté à être.
Ben, d'ailleurs, elle a lancé sa campagne hier en région, en Mauricie, et c'est pas un hasard. Je pense que son équipe et elle savent très bien que M. Drainville risque de partir avec une longueur d'avance sur cet aspect-là.
Oui, mais en même temps, puis c'est vrai que c'est comme si les deux candidats, puis tout à l'heure, j'écoutais Christine Fréchette en entrevue, veulent pas encore se mouiller. On a mis un pied dedans, mais on veut pas encore mettre les deux pieds puis s'engager complètement. Un peu comme la semaine passée, on avait des rumeurs que certaines personnes allaient se lancer, mais c'est comme si on voulait pas être le premier à se lancer.
Tout le monde
se
regardait un petit
peu. Ben c'est ça, toi tu vas-tu y aller, moi je vais-tu y aller, puis on voulait comme pas être celui qui embarque en premier. Mais là j'ai comme l'impression que c'est la même chose maintenant qu'on a deux candidats, c'est qui va se mouiller en premier? C'est un peu ça la question maintenant.
En même temps, c'est bien d'être à l'offensive, hein, parce que c'est une des choses que tu essaies de faire, c'est de mettre l'autre un peu sur la défensive. Bon, il faut le rappeler, c'est une course à la direction, donc ce sont des collègues aussi, donc ce sera pas nécessairement comme une campagne électorale où on attaque à tout vent. Je reviendrai un peu sur son entrevue d'hier soir aussi pour la mettre un peu en comparaison avec ce matin. Puis, en fait, sa tournée d'entrevue puis son lancement. Parce qu'en fin de semaine, M. Drainville a décidé de lancer sa campagne avec une vidéo sur les médias sociaux. Une très belle vidéo, très bien réalisée, des bons formats, là, tout allait bien. Mais c'est vrai qu'il faisait un peu tout seul. Alors que Christine Fréchette lance sa campagne.
Ben d'ailleurs, par texto, un auditeur nous écrit « Hey, il y a combien d'appuis, lui, présentement, Bernard Drainville? »
Si je ne m'abuse, on est à 5 ou 6.
Mm-hmm.
Mais il a répondu à ça hier, à Tout le monde en parle. Puis d'ailleurs, pour ça qu'on n'y a pas nécessairement posé la question aujourd'hui, puisque je pense que sa réponse est bonne. Ce qu'il a répondu, c'est que c'est bien d'avoir des appuis, mais lui, ce qu'il veut, c'est l'appui des membres. Parce qu'un député, ça ne donne pas plus d'appui, ça n'a pas plus de poids. Leur vote vaut la même chose. Ça a un impact médiatique, c'est sûr. Mais moi, cette course-là là, qui démarre en ce moment me fait penser à une course que j'ai vécue, c'est celle de 2016 au PQ. Alexandre Cloutier était parti premier.
Crime, oui, favori à côté.
Il venait de faire une course parce que En 2015-2014, il y avait eu une course à la chefferie, mais c'était sûr que Pierre-Carles Péladeau allait gagner. Donc, Alexandre Cloutier, c'était le petit challenger cute. Là,
mais
il
s'était bien
aimait.
Positionné là-dedans. Oui? Je vais prendre l'exemple un peu comme Barack Obama. Là, l'exemple est gros, là, mais tu vas comprendre. Où, lorsqu'on avait amené ce candidat transitoire-là là, qui venait de l'armée, là, je me souviens plus le nom, j'ai en tête McCarthy. Normalement, c'était Hillary Clinton, après ça, qui prenait oui. le plancher. Mais Barack Obama avait tellement
c'est John
été...
John McCain dont tu parlais?
John McCain, c'est républicain, ça.
Ah, OK, tu parlais aux démocrates.
Ouais,
je m'excuse,
exactement.
Je sais pas de qui tu me parles.
Ouais, j'irai le retrouver. Mais là, on voyait Hillary Clinton et après Barack Obama dans l'échiquier.
Ouais.
Mais Barack Obama a tellement été solide dans ce congrès-là...
Qui a doublé la favorite.
Qui a doublé la favorite.
Et en 2016, Alexandre Cloutier avait la grande majorité des appuis au caucus du PQ. Et Jean-François Lisée en avait zéro au début. Et Véronique Yvon en avait quelques-uns. Quand Véronique Yvon s'est retirée, les appuis se sont transférés à Jean-François Lisée, mais c'était genre ça, 5-6 appuis. Mmh. Il a gagné Jean-François Lisée parce qu'il a parlé à la base. Puis on oublie d'analyser leur stratégie de communication à la lumière. C'est pas le grand public. C'est un public très niché de membres. Il y a à peu près 15 000 membres en CAQ, là. Et c'est pas nécessairement des gens qui ont les mêmes aspirations que... ma mère, puis les Montréalais, puis c'est plus niché un petit peu. Puis j'ai trouvé que le lancement de Mme Fréchette était plus impressionnant. Puis ça a donné des bons résultats quand même, parce que, premièrement, elle est en direct partout. Mm-hmm. Moi, qui est passionnée de stratégie de com, tu sais, j'observe beaucoup ça. Il y avait des alertes qui apparaissaient sur les téléphones de tout le monde avec les applications mobiles des principaux médias, puis les titres étaient bien corrects. On lance sa campagne à Trois-Rivières, entouré d'appui, etc., etc. Alors que M. Drainville, tout seul dans sa vidéo, une entrevue à Tout le monde en parle, c'est un environnement contrôlé, mais très montréalais, par contre.
Oui.
C'est pas des gens autour de la table là, qui capotent sur le troisième lien, là, mettons, puis sur la laïcité dans les garderies, là, on s'entend?
En effet.
Mais ça lui donnait l'occasion de montrer un aspect plus personnel de lui-même, je pense.
Ouais,
j'ai l'impression que lui doit combattre une perception, parce qu'il est très connu, mais plus polarisant un petit peu. Alors que Mme Fréchette, moins connue, il faut qu'elle se fasse connaître là, un petit peu plus
oui.
du grand public quand même.
Il faut qu'elle démontre qu'elle a l'appui de gens, puis il faut qu'elle installe sa crédibilité.
Puis elle veut donner l'image d'une première ministre en attente qui est prête dans quelques minutes là, à prendre le relais de M. Legault. Donc c'est intéressant de voir les deux stratégies, mais j'ai l'impression que M. Drainville fait un départ un peu plus lent. Mais il ne faut pas le sous-estimer.
Continuez d'interagir au 418-971-1021. Isabelle nous écrit « Ouais, un autre qui parle d'expérience, ça ressemble à Sam Hamad et son discours n'a pas rejoint la population, en effet. »
Ce commentaire-là, je l'entends beaucoup et même j'ai vu beaucoup de gens comparer Bernard Drainville à Denis Coderre.
Mm-hmm.
Donc, il y a cette perception un peu qui reste de vieux politicien là,
ben,
qui veut trop. Là.
Ouais, ben va-tu falloir justement, parce que quand on lui a demandé la question comment il compte se différencier, qu'est-ce qui est différent, il a tout de suite ramené ça, l'expérience que j'ai vécue.
Ouais.
Va-tu falloir qu'il change ce discours-là puis qu'il trouve quelque chose de concret vraiment? Moi, voici ce que je peux apporter de plus par rapport à Mme Fréchette, par exemple.
Face aux membres, c'est pas si mauvais. Parce qu'il dit, moi, je suis testée, puis je suis là quand c'est difficile, puis je prends les balles et tout ça. En comparaison avec une Christine Fréchette qui a fait un sans-faute. Puis d'ailleurs, c'est un peu injuste de penser qu'elle n'a pas testé, parce qu'immigration, puis reprendre le dossier de Fitzgibbon, c'était pas si facile que ça.
Elle a été testée.
Non plus. Mais il veut se démarquer par un style un peu plus émotif, authentique, alors que Christine Fréchette peut avoir l'air un petit peu plus lissée, distante, un petit peu plus beige aussi. Fait que c'est intéressant là, de les voir se différencier sur le point de vue du style et du ton. Mais moi, j'ai vraiment hâte de savoir du point de vue des propositions concrètement. Puis, tu sais, Jeff, tu posais la bonne question. Comment on va se distinguer? Comment on va se distancer aussi du bilan de M.
Legault?
Bien,
t'as pas le choix, parce que je comprends que tu peux te faire élire par les militants, mais après ça, ton premier mandat, c'est de faire en sorte que la CAQ continue d'exister.
Bien, puis l'élection, elle n'est pas dans 2 ans, là.
Non, on est en octobre, là. Donc, t'as pas le choix de te distancer de François Legault, selon moi, parce qu'à 11% dans les sondages, c'est zéro député pour la CAQ, là.
Si tu le fais trop, ça a l'air inélégant.
En
plus, M. Legault est encore là. Donc, c'est un équilibre fragile. Oh,
mais, hein, Ben oui, puis c'est pas comme quand Mark Carney est arrivé dans la course alors que plus personne voulait être Justin Trudeau, même au sein de son propre parti.
Ben, même Justin Trudeau, parce que tu amènes la comparaison, quand il a quitté puis annoncé sa démission, la pression a beaucoup descendu et il y a même certaines personnes qui avaient une sympathie pour lui qui avaient complètement disparu.
En effet.
Donc, peut-être aussi que pour M. Legault, surtout aussi qu'on a entendu dans les derniers jours, j'ai vu notamment le Journal de Québec là, qui rapportait que Mme Fréchette avait déjà commencé à s'organiser avant même la démission de M. Legault. Et en coulisses, il y a des gens que ça a dérangé, qui ont trouvé que c'était un manque un peu de considération pour M. Legault. Je ne suis pas sûre que M. Legault le voit comme ça, mais il faut faire attention aussi pour ne pas piétiner le cadavre.
Ben, on s'est parlé cette fin de semaine, puis tu me dis si c'est arrivé au PQ, il y aurait une révolte majeure contre l'establishment, mais du côté de la CAQ, ça va être plus modéré.
Ben, on verra comment ça réagit, mais c'est sûr, au PQ, là, que je reviens à la course à la chefferie de 2016 avec Alexandre Cloutier, il y a, puis d'ailleurs, une chronique de Claude Villeneuve, qui collabore des fois, qui nous parle des fois ici, qui avait titré que Alexandre Cloutier était le candidat de l'establishment. Et une des phrases de la chronique, c'est toute la machine à perdre péquiste qui s'est rangée derrière Alexandre Cloutier. Et cette chronique avait fait un mal extrême à l'équipe de
donc,
de
Claude Villeneuve Cloutier avait fait mal à sa propre organisation politique.
Il était plus là. Oui, puis c'était un candidat.
Oui, c'est ça. Exactement.
Il avait pris position. Moi, mon chum était dans l'organisation d'Alexandre Cloutier. Je peux te dire que ça sacrait après Claude Villeneuve.
Hey, on prend juste un petit dernier 2 minutes pour parler de la course à la chefferie de la CAQ, parce qu'après la pause, on va avoir Pascal Paradis, député de Jean Talon, sur le congrès du PQ de cette fin de semaine. Je veux te faire entendre Christine Fréchette par rapport justement au mandat économique.
Probablement un peu moins interventionniste. Moi, je pense qu'il y a de la place pour réduire, pour avoir davantage de retenue au niveau des interventions économiques. On y est allé fort sur certains angles au niveau des dernières années. Bien, moi, j'y serais allée un peu plus, de manière plus réservée. Je vous parle globalement parlant. Okay. Je trouve que ça a été... C'était une marque de commerce de M. Legault. Puis moi, bon, j'arriverai avec une couleur légèrement différente.
C'est une bonne traque qu'elle prend, Christine Fréchette, pour reprendre l'expression, dans le sens qu'on va être moins interventionniste. La CAQ encore quand même... Puis là, il y a des gens qui vont rire de moi si je dis ça, mais j'y crois, là. Encore des chances de gagner quelques comtés dans la région de Québec.
Absolument.
Donc, en allant un petit peu plus à droite comme ça, en allant jouer dans les talles du Parti conservateur, je pense que ça peut être gagnant pour elle.
En même temps, c'est très général. Je vais être moins interventionniste, OK?
Oui.
Quoi,
mettons? C'est ça.
Qu'est-ce qu'on a fait comme gouvernement que tu referais pas?
Voter moi, facilement. Moi, j'irais avec Nordvolt, Lyon Électrique, c'est facile. Là. Taiga, c'est pas mal facile à dire.
Oui, mais elle n'en a pas nommé. Elle s'est faite poser la question, puis elle n'en a pas nommé. Elle a dit, j'ai pas d'exemple, rapidement comme ça.
Oui, puis, tu sais, Nordvolt, c'est un grand symbole. Mais c'est facile de dire, ah ben moi, j'aurais pas fait ça, investir dans cette compagnie-là, mais à un moment donné, il y a des risques à investir. C'est juste que le montant était tellement gros, l'annonce était tellement spectaculaire que ça a l'air d'un échec
C'est François Legault lui-même qui l'a créé, cet échec-là, c'est en mettant la barre tellement haute. Mais comme Mario Dumas a déjà écrit dans une chronique, et j'étais d'accord avec lui, il disait « Oubliez pas qu'on avait perdu tout le secteur de l'automobile dans les années 70-80 au profit de l'Ontario. » Donc là, c'était le Québec qui pouvait se positionner en matière électrique, en matière de batterie.
Oui, puis on dit souvent que la filière batterie, c'est un échec, mais je pense que faut pas... Pour reprendre l'expression de M. Drainville, j'étais le bébé avec l'eau du bain.
Non, c'est
ça. Il y a eu des entreprises qui ont moins de succès. C'est une filière qui est challengée sur la scène internationale. Hein. C'est pas juste ici qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais moi, je dirais attention avant de dire que c'était un échec complet. Cela dit, pour Mme Fréchette, c'est moins d'interventionniste. Moi, je pense que M. Drainville va prendre une position similaire.
Exactement.
Il a déjà aussi parlé du fait qu'il voulait dégraisser encore l'État, etc. Donc, ça ne sera pas un gros élément différenciateur encore.
Non, c'est ça. Vraiment, sur la question identitaire qui pourrait avoir des différences, et c'est là, je pense, qu'il faut que Bernard Dainville
frappe. Et troisième lien, honnêtement, on surveille ça, là.
Vraiment, t'as entièrement raison. On fait une courte pause à Boulevard 102.1, et par la suite, on revient avec Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. On va parler notamment du congrès du PQ. Et tiens, avant de partir à la pause, on va l'écouter de cette déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Mes chers amis, jeudi dernier à Québec, et plus précisément sur les lieux de la bataille des plaines d'Abraham, Mark Carney a décidé de lancer la campagne référendaire.
La campagne référendaire est lancée, on en parle avec Pascal Paradis.